Dime qué son los secretos de tu Dime cuál es el camino de tu divino
Les racines du ciel. Une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar, réalisée par Véronique Villa, préparée par Marie Dalquier, avec à la technique Philippe Palares. Aujourd'hui, je reçois Trinh Xan Thuan, pour parler de la croisée des chemins entre science et bouddhisme. Trinh Xan Thuan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'astrophysique à l'université de Virginie aux États-Unis, spécialiste de l'astronomie extragalactique, vous étudiez la formation et l'évolution des galaxies. Vous avez écrit de nombreux ouvrages pour le grand public comme La Mélodie secrète chez Fayard qui vous a rendu célèbre et puis Le dictionnaire amoureux du ciel et des étoiles chez Plon et tout dernièrement vous venez de publier Le cosmos et le lotus chez Albin Michel qui est un ouvrage tout à fait passionnant où vous parlez à la fois un petit peu de votre propre parcours et on va découvrir à quel point c'est effectivement intéressant pour comprendre aussi votre pensée, et puis du lien qui existe à travers votre propre expérience et vos connaissances entre la science et le bouddhisme. Alors on va commencer par l'aspect plus personnel, parce que vous commencez votre livre comme ça, et je trouve que c'est très éclairant sur tout votre parcours. Vous êtes au carrefour de trois cultures, puisque vous êtes né en 1948 à Hanoï, donc vous êtes vietnamien.
Vietnamien.
Vous avez été élevé dans une culture française, un lycée français.
Voilà.
Et vous avez ensuite travaillé, fait vos études supérieures et vécu aux États-Unis depuis longtemps, donc culture anglo-saxonne, américaine. Alors, racontez-nous un petit peu ce cheminement, qu'on comprenne comment tout ça s'est fait et comment ça vous a finalement donné une particularité d'être multiculturel.
Oui, donc mon background vietnamien, bien sûr, je suis très influencé par la pensée confucéenne et la pensée bouddhiste. Et bien que j'ai fréquenté un lycée français, vous savez, la pensée confucienne a imprégné toute la vie quotidienne, bien sûr. Et je me souvenais aussi des grandes fêtes bouddhiques où j'allais enfant. Donc ça m'a imprégné. Je le pratiquais surtout, mais je ne connaissais pas très bien la philosophie bouddhiste. Et en fait, c'est plus tard, à l'âge adulte, quand j'ai rencontré Mathieu Ricard, que j'ai creusé
ça. Vous êtes réintéressé avec ce livre que vous avez fait, L'infini dans la paume de la main.
Tout à fait. Et donc, mes parents m'ont mis dans un lycée français parce que c'était la meilleure éducation qu'on pouvait avoir au Vietnam. Et bien sûr, j'ai grandi avec les penseurs, les philosophes français, Pascal, que j'admire beaucoup, Descartes. Et donc, c'est la langue où je me sens le plus à l'aise, en fait, pour exprimer mes idées philosophiques et littéraires. Et j'écris donc tous mes ouvrages en français. Et cela étonne beaucoup mes collègues, bien sûr, américains, où je vis maintenant depuis plus de 40 ans, vous savez. Mais bon, pour moi, la langue anglaise reste une langue scientifique où j'écris mes articles scientifiques. Bien sûr, je suis professeur à l'Université de Virginie, donc je donne mes cours en anglais. Mais je sens moins bien la poésie de la langue anglaise que celle de la langue française. Donc, c'est pourquoi je préfère écrire en français.
Alors, vous êtes venu en France et en Suisse pour faire vos études lorsqu'a démarré, c'était
tout
presque au moment de la guerre du Vietnam.
Voilà, c'est ça. Oui, en Suisse, parce que, vous savez, en fait, je voulais aller en France. Vous savez, tous mes professeurs au lycée français voulaient que j'aille faire l'école normale, rue d'Ulm à Paris. J'avais même réservé une chambre à Louis le Grand pour faire maths spé. En 66, patatras, tous mes plans tombent à l'eau parce que le général de Gaulle fait un grand discours à Phnom Penh disant que les États-Unis devaient se retirer du sud-est asiatique. Bien sûr, ce n'était pas du goût du tout du gouvernement sud-vietnamien et des Américains. Rupture diplomatique donc du sud-Vietnam avec la France. Donc, tous mes plans tombaient à l'eau. Je ne pouvais plus aller étudier en France. Donc, je suis allé en Suisse, Suisse romande, parce que l'enseignement était en français. Mais après une année à l'école polytechnique de Lausanne, je me suis rendu compte que, bon, j'étais dans une école d'ingénieurs et en fait, Là, on apprenait à appliquer des lois trouvées par d'autres choses. Et moi, je voulais faire la recherche fondamentale, trouver moi-même des choses, des lois fondamentales de nature. Et donc, j'ai décidé de sauter le pas, bien que parlant pas très bien l'anglais. J'ai demandé donc l'admission à 3 universités américaines. Donc, je pensais était très, très, très bon en physique. Donc, Princeton, là où mon idole d'enfance, Einstein, travaillait. Et puis, le MIT, le Caltech, qui étaient les deux grandes université scientifique américaine. Et puis, vous savez, heureusement, ils m'ont accepté. Ils m'ont fait passer, bien sûr, une batterie de tests, etc., ne connaissant pas très bien le système français ni le bac français. Mais bon, j'ai dû faire bien parce que, bon, ils m'ont tous donné une bourse. Et j'ai choisi Caltech pour une raison assez futile, ce qui est en fait parce que j'avais un peu marre de l'hiver suisse. Et donc, je voulais la chaleur californienne. Et bien sûr, il y a le mythe de la Californie avec le surf chanté par les Beach Boys, les belles filles, et puis le mouvement hippie, etc. Vous voyez, donc voilà. Donc, je me suis retrouvé à Caltech à ce moment-là.
Pleine révolution, la contre-culture, la révolution culturelle aux États-Unis à ce moment-là. Et alors là, qu'est-ce qui vous a orienté vers l'astrophysique?
Oui, alors donc... Vous savez, je voulais au début faire la physique. Et en fait, il y avait de très, très grands professeurs sur le campus de Caltech qui faisaient la physique. Richard Feynman, par exemple, qui est prix Nobel de l'électrodynamique quantique. Gell-Mann, qui était l'inventeur du quark, etc. Mais finalement, je me suis rendu compte aussi que Caltech avait le plus grand télescope du monde aussi. Le télescope de Palma, 5 mètres de diamètre. Et vous savez, l'astronomie, c'est vraiment la collecte de la lumière du cosmos. Il faut de grands télescopes pour collecter la lumière du cosmos. C'est la lumière qui nous relie au cosmos. Et donc, le télescope de Palma pouvait aller le plus loin de l'univers. Parce qu'il faut savoir qu'en astronomie, regarder faible, c'est regarder loin. Et regarder loin, c'est regarder tôt. Parce que la lumière met du temps à parvenir. Nous regardons l'univers toujours avec un peu de retard. Vous savez, la Lune après une seconde, le Soleil après 8 minutes, la plus proche étoile après 4 années, la plus proche galaxie après 2 millions d'années, etc. Et donc, nous remontons le temps comme ça avec les télescopes. Les télescopes sont vraiment des machines à remonter le temps. Et avec le télescope de Palomar, c'est le télescope qui regardait le plus loin dans l'univers. Et donc, il pouvait remonter le temps de quelques 7 milliards d'années, la moitié de l'âge de l'univers. Et donc, quand un de mes professeurs de physique m'a amené à observer à ce télescope Palma, c'était l'éblouissement complet. Vous voyez, cette connexion cosmique, moi qui recevais cette lumière qui est partie il y a des milliards d'années, même avant que les atomes de mon corps se fabriquaient dans une étoile, c'était une émotion extraordinaire. Et donc, c'est ça qui m'a fait tomber dans la marmite de l'astronomie. Mais il faut que je dise aussi que les années 60, c'était l'âge d'or de l'astronomie aussi, parce que c'était, il y a une pléthore de découvertes. Vous voyez, 63, la découverte des quasars par un de mes professeurs à Caltech d'ailleurs. 65, la découverte du rayonnement fossile. La chaleur qui reste en quelque sorte de l'instant de la création des Big Bang. Et puis 67, la découverte des pulsars, des étoiles à neutrons qui tournent extrêmement vite. Et puis 69, le premier homme sur la Lune, Neil Armstrong, vous voyez. Donc ça ne pouvait qu'influencer un jeune esprit en quête de recherche du sens de l'univers.
Oui, parce que c'est quelque chose que vous avez, que n'ont pas forcément tous les scientifiques, c'est que, effectivement, on sent que vous avez une dimension en vous un peu métaphysique, un peu tournée vers la question du sens, hein, de la vie, de l'univers. C'est une question qui traverse tous vos livres, quasiment.
Tout à fait.
Et c'est une dimension poétique aussi, c'est-à-dire qu'on sent bien que vous aimez, vous citez souvent des poèmes dans vos livres. Lélie Envar, bonjour.
Bonjour.
C'est aussi un aspect, je crois, qui vous a intéressé chez Trinx Antoine, cette dimension un peu du langage philosophique et poétique.
Oui, je dois avouer que j'ai un faible, évidemment, pour la dimension philosophique et poétique. Et donc, à chaque fois, mais c'est à peu près à toutes les pages que vous évoquez quelque chose de poétique, il est certain que mes oreilles s'aiguisent plus particulièrement. Mais en effet, vous avez raison, Frédéric, il y a là, dans votre démarche, quelque chose de profondément poétique, mais dans le sens le plus noble du terme, je dirais. Merci. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'ornement, c'est vraiment une quête de la vérité. Et finalement, la poésie, la vraie poésie, n'a pas d'autre but que cela. Et c'est ce que vous dites aussi, quand vous citez des poètes.
Oui.
Et votre quête n'est rien d'autre que cette quête de la vérité.
Tout à fait.
Et vous citez, alors, justement, le premier texte, je n'ai pas pu résister au plaisir de lire, en fait, ce texte que vous citez vous-même, de Walt Whitman. ce qui prouve que vous êtes quand même sensible à la poésie américaine, même si vous le donnez ici en traduction française. Walt Whitman, qui est effectivement un grand poète de la nature, c'est-à-dire c'est vraiment un des... il fait partie de ce mouvement du transcendantalisme américain et de cette façon de voir l'univers d'une manière un peu presque panthéiste, de lever le nez vers les étoiles, pas seulement pour y voir les étoiles, mais aussi pour y percer le secret de la création. Et voici donc le poème que vous citez, c'est un extrait des feuilles d'herbe, et on va voir que peut-être vous identifiez un peu à Walt Whitman. J'ai entendu le savant astronome. J'ai vu les formules, les calculs en colonnes devant moi. J'ai vu les graphiques et les schémas pour additionner, diviser, tout mesurer. J'ai entendu de mon siège le savant astronome donner sa conférence sous les applaudissements. Et soudain, j'ai ressenti un étrange vertige, une lassitude infinie. Alors je me suis éclipsée sans bruit. Je suis sortie seule dans la nuit fraîche et mystérieuse. Et de temps à autre, dans un silence total, j'ai levé les yeux vers les étoiles.
Très beau. Oui, 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 et ce contact intime avec le ciel, moi, je l'éprouve très, très, très fort aussi. Je vous ai raconté mon premier éblouissement à l'utilisation du télescope de Palomar. Mais je continue à le ressentir, bien sûr. Je m'arrange toujours pour aller sur les observatoires parce que ce sont toujours des lieux de beauté exceptionnelle où on voit un ciel rempli d'étoiles et c'est un spectacle magnifique. Parce que, bien sûr, la technologie nous permet maintenant de ne plus aller même aux observatoires. Vous savez, je peux tout contrôler. Certains télescopes de mon bureau à l'Université de Virginie, en fait, par ordinateur imposé, etc. Mais le contact intime avec le ciel me manque toujours. Et je comprends très bien ce que Walt Whitman, il avait assez d'entendre de voir ses équations. Et parce que pour moi, la nature, la sensation du ciel ne peut pas seulement réduire à des équations.
Et pourtant, vous avez fait une thèse, dites-vous, à Princeton, qui est de l'astrophysique théorique. Et effectivement, vous racontez que, après avoir fait cette thèse, malgré tout le plaisir que vous avez eu à travailler avec des maîtres de la théorie, vous avez eu une envie de retourner regarder les étoiles.
Les étoiles. Et voilà. Et donc, je suis retourné j'avais fait ma thèse théorique à Princeton, donc je suis retourné à Caltech de nouveau pour avoir accès à ces merveilleux télescopes.
Alors vous nous dites que je vois dans votre biographie que vous êtes professeur d'astrophysique et spécialiste de l'astronomie extragalactique. Alors expliquez-nous ce que c'est.
Oui, donc des objets célestes qui sont au-delà de notre voie lactée. Il faut que je m'explique. Donc vous savez, la Terre donc est une planète qui tourne autour du Soleil, et le Soleil n'est qu'une étoile de banlieue parmi les 100 milliards d'étoiles qui forment la voie lactée. Parce qu'on pensait au début que en fait le Soleil, vous savez, avec l'ego humain, on pensait d'abord que la Terre était au centre du monde. Bon, bien sûr, Copernic dit que c'est faux, que c'est une simple planète autour du Soleil. On pensait alors que le Soleil doit être au centre de la Voie lactée. Patatras, les astronomes démontrent que c'est une étoile de banlieue, donc vers les deux, un peu la moitié vers le bord de la Voie lactée, donc environ 25 000 années-lumière, vous voyez,
parce que le rayon de la Voie lactée, qui est notre galaxie.
Qui est notre galaxie et qui est donc un disque. Vous voyez, et donc vous voyez d'ailleurs ce disque, par les belles nuits d'été en août d'ailleurs, cette arche voûtée qui est magnifique d'ailleurs, et je conseille à tous nos auditeurs de le regarder, c'est une vue magnifique. Et donc après cela, donc on pensait que l'univers se réduisait à notre voie lactée. Patatras, donc Hubble démontre qu'il existe des univers îles, comme Kant, le philosophe Emmanuel Kant les appelait, bien au-delà de notre voie lactée. Donc maintenant, on sait que notre voie lactée n'est qu'une parmi les centaines de milliards de galaxies qui peuplent l'univers. Donc vous voyez, notre place dans l'univers s'est beaucoup rétrécie. On est très très loin d'être le centre du monde. Et donc moi, j'étudie toutes les objets qui sont au-delà de notre voie lactée.
Donc, mais les objets au-delà, c'est d'autres galaxies que vous
d'autres
étudiez.
D'autres galaxies, voilà.
Des phénomènes, des trous noirs.
Galaxies. Non, d'autres galaxies, des galaxies naines en fait, parce que des galaxies naines, comme leur nom indique, des galaxies de plus petite masse, environ 10 fois moins massives que la que la masse de la Voie lactée, vous voyez, que je vous ai dit tout à l'heure, c'est de l'ordre de 100 milliards de la masse
et
du Soleil.
Et ça, on peut les connaître par l'observation astronomique ou par des calculs aussi
mathématiques. Non, c'est toujours l'observation. Moi, je suis un observateur de l'univers. Je vais au télescope, je recueille la lumière du cosmos et je l'analyse. Parce que c'est ça que...
Parce qu'on ne les voit pas, ces galaxies. On ne voit
pas
rien.
Pas à l'œil nu. Mais avec le télescope, on les voit, bien sûr.
Oui, mais alors si on a des télescopes extrêmement puissants, comme vous dites, dès le premier coup d'œil dans ces télescopes, on aurait dû découvrir toutes les galaxies. Pourquoi on en découvre encore toujours plus?
Non, parce que, d'abord, le télescope ne peut regarder qu'une petite partie du ciel. Vous voyez, le ciel est très vaste.
Ah oui, donc il faut le bouger tout le temps.
Donc, vous le bougez tout le temps, voilà. Et puis, bien sûr, les galaxies les plus lointaines, se réduisent à des petits points de lumière, ils deviennent très très faibles. Donc c'est pourquoi la quête de toujours de voir beaucoup plus faible. Donc construire des télescopes de plus en plus grands. Le plus grand télescope du monde maintenant, 10 mètres de diamètre, donc un peu plus que cette salle de studio, vous voyez, c'est tout un bâtiment.
Il se trouve où?
Et ça se trouve à Hawaï, donc en haut de deux volcans qui s'appellent Mauna Kea, un volcan éteint. Et puis les Européens ont accès, donc en particulier les Français, ont accès à ce qu'on appelle au VLT, Very Large Telescope, qui est 4 télescopes de 8 mètres réunis ensemble dans les Andes, dans le désert d'Atacama. Donc ce sont des sites toujours magnifiques, parce que là où le ciel doit être très très clair, bien sûr, pour recueillir cette lumière cosmique. Et donc, vous voyez, quand vous avez des grands télescopes, vous voyez des choses très, très faibles, donc très lointaines. Et donc, c'est comme ça que vous remontez le temps et reconstruisez l'histoire cosmique. Une histoire de 13,7 milliards d'années, on passe maintenant.
Donc, finalement, des découvertes en astrophysique aujourd'hui se font par l'observation de télescopes où un astronome va observer quelque chose que personne n'avait jamais vu dans le même télescope.
C'est-à-dire, des choses peuvent être découvertes par d'autres, mais ça n'a pas creusé. Des phénomènes qui n'ont pas été creusés, par exemple. Vous voyez. Par exemple, je peux parler de la découverte qui a reçu le prix Nobel de physique cette année, par exemple. Vous voyez, qui concerne l'expansion, l'accélération, l'expansion de l'univers. Donc, vous savez, l'univers est en expansion. Et ça, c'était une découverte de Hubble, en fait. Toutes les galaxies s'éloignent de nous. Quand vous allez dans les galaxies, et comment vous savez que les galaxies s'éloignent de nous? Bien sûr, vous ne voyez pas se déplacer dans l'espace comme ça. Notre vie est trop, trop brève pour voir ça. Mais la lumière, quand elle est mise par quelque chose qui s'éloigne de vous, elle est rougie. C'est ce qu'on appelle un déclinement vers le rouge. Et donc, le rougissement dépend de la vitesse d'éloignement. Donc, comme ça que les astronomes savent que l'univers est en expansion. Alors, on pensait que, bien sûr, que la gravité est toujours attractive, donc elle doit ralentir cette expansion et que l'univers va devenir éventuellement atteindre un rayon maximum et s'effondrer sur lui-même et avoir un envers de Big Bang qui s'appelle un Big Crunch, un grand écrasement. Mais en fait, la grande découverte qui leur a valu le prix Nobel de physique cette année, c'est qu'au contraire, maintenant, l'univers semble être accéléré. Donc au lieu d'appuyer sur le frein, en quelque sorte, dans votre voiture, vous appuyez sur l'accélérateur. Donc,
l'accélération exponentielle. C'est drôle, parce que ce que vous dites là, à l'échelle de l'univers, c'est ce qu'on vit sur l'échelle de la Terre. C'est que le temps s'accélère de manière exponentielle, tout va de plus en plus vite.
Oui, psychologiquement, ça c'est vrai, bien sûr.
On le vit aussi à notre petit niveau.
Tout à fait.
Lélie ?
Oui, alors est-ce qu'on pourrait dire que cette science que vous pratiquez, c'est une forme d'archéologie mais qui est dans l'espace, c'est-à-dire qu'en fait de même qu'on creuse la Terre pour reconstituer l'histoire, là on regarde le ciel pour reconstituer l'histoire.
Exactement, vous pouvez utiliser cette métaphore, ça c'est vrai, on remonte le passé, donc au lieu d'avoir des couches de plus en plus profondes, maintenant on voit de plus en plus loin, c'est comme ça qu'on remonte l'espace.
Et qu'est-ce que ça nous apprend sur notre propre monde alors de ce fait, qu'est-ce que pour vous serait l'apport essentiel de cette science pour nous comprendre nous-mêmes, en fait.
Oui, donc je vous ai dit, donc, on a reconstitué donc, une histoire de 13,7 milliards d'années. Il y a 13,7 milliards d'années, il y avait un tout petit... il n'y avait ni d'espace, ni point. Et puis, il y a un vide rempli d'énergie, qui est un point extrêmement petit, des milliards, des milliards, des milliards de fois plus petit qu'un atome. Et il y a eu une grande explosion, ce qu'on appelle un Big Bang. Donc, et puis, depuis, l'espace se crée constamment. Il y a de plus en plus d'espace entre les galaxies. Alors, bien sûr, au début, il n'y avait pas de matière encore. Il n'y a pas de protons, neutrons, toute la matière qui se trouve. Il n'y avait que l'énergie. Mais l'énergie se transforme en matière. Parce qu'Einstein nous a montré ça. E égale mc2. Vous voyez, la matière est équivalente à l'énergie. Et donc l'énergie du vide se transforme en matière, protons, électrons. Et cela se combine pour former toute la matière. Et puis finalement, mais dans le Big Bang, il n'y avait que deux éléments qui ont pu être fabriqués, ce qu'on appelle l'hydrogène et l'hélium. Et ces éléments sont très simples. L'hydrogène, c'est l'élément le plus léger de la table périodique. Vous savez, un seul proton avec, et puis le noyau d'hélium qui a deux protons, deux neutrons. Donc, des éléments si simples que la complexité ne peut pas se construire. Donc, en fait, s'il n'y avait que le Big Bang, nous ne serons pas là pour en parler. Parce que bon, nous sommes faits d'atomes de carbone, d'azote, etc. Donc l'univers devrait inventer quelque chose d'autre. Et l'invention, c'est les étoiles. Vous voyez, parce que maintenant, en l'an 380 000, la matière et la lumière se séparent. Et puis, donc, la matière s'effondre pour former les premières étoiles. On pense que c'est donc entre l'an 380 000 et le premier milliard d'années. Et ces étoiles vont faire leur alchimie nucléaire. Comme le soleil maintenant, vous savez. C'est-à-dire, il va fusionner des choses, l'hydrogène en hélium, hélium en carbone, etc., et fabriquer toute la panoplie des éléments. Donc, jusqu'au carbone. Et puis, certaines de ces étoiles vont mourir dans les supernovas et fabriquer tous les éléments plus lourds que le fer. Donc, en fait, tous les éléments qui fabriquent la complexité du monde sont issus des étoiles. Nous sommes tous les poussières des étoiles. Nous partageons tous la même géologie cosmique.
Vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel en compagnie de Trinh Xantuan. Nous parlons de la croisée des chemins entre science et bouddhisme, ou plutôt nous allons en parler parce que nous avons déjà, Trinh Xantuan, pas mal parlé de votre enfance, de votre vocation scientifique, du métier de découvreur de galaxies qui est le vôtre. Et on va en venir maintenant au bouddhisme, c'est-à-dire au lien entre science et bouddhisme. Mais juste avant, une petite question. Vous avez choisi le Boléro de Ravel. Quel rapport avec, avec la science? Est-ce qu'il y en a un déjà ou pas?
Oui, oui. Je pense que, vous savez, le Boléro de Ravel débute très, très lentement. Et puis, au fur et à mesure que le temps passe, les choses deviennent... il y a une accélération exponentielle dont on parlait tout à l'heure, justement. Et donc, il y a un crescendo d'instruments, de musique à la fin. Et donc, ça me rappelle l'évolution de la vie sur Terre, en fait. Vous voyez, il y a 3,8 milliards d'années, il y a une cellule. En fait, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une poussière d'étoiles. Les poussières d'étoiles se sont assemblées et puis tout d'un coup, la vie a surgi, la première cellule. Et puis, pendant des millions, voire des milliards d'années, rien ne s'est passé. Vous voyez, d'une monocellule jusqu'à des organismes multicellulaires. Et puis tout d'un coup, l'évolution... accélère un peu à la manière du Boléro de Ravel. Et puis bon, donc il y a seulement, donc l'homme a quitté la jungle seulement, vous savez, il y a quelques millions d'années. Et puis l'homme conscient, moi je dirais, donc qui est conscient de son environnement, d'un sentiment transcendant mystique, etc., donc que je date par Lascaux par exemple, c'est quelques dizaines de milliers d'années. Et puis, bon, maintenant, nos civilisations durent quelques milliers d'années. Et puis, bon, maintenant, vous savez, des inventions, le fax, le GPS, enfin, tout ça, c'est quelques dizaines d'années, voire quelques années. Donc, il y a une accélération de la vie. Donc, ça me rappelle très fort le mouvement du Boléro.
Tout à fait. Et puis, on voit que chaque fois, il y a un instrument qui rentre et dans l'orchestre qui s'emballe. Oui. Alors, pour en venir au bouddhisme, qui est l'objet de votre livre, je rappelle Le Cosmos et le Lotus, qui vient de sortir chez Albin Michel, un livre d'ailleurs très accessible et intéressant, qui permet de comparer certains points de la science contemporaine, on va dire occidentale, parce qu'il y en a en Occident, et des certains principes philosophiques bouddhistes. Mm. Or, vous relevez tout un certain nombre de points, donc on sait que vous êtes de culture bouddhiste, même si vous n'avez pas été marqué enfant par la religion bouddhiste et vous l'avez plutôt redécouverte adulte en la travaillant,
voilà.
Notamment.
C'est-à-dire, je la pratiquais, mais sans en creuser les fondements philosophiques.
Les fondements philosophiques, voilà. Et oui. C'était plutôt traditionnel, voilà. Que vous viviez, mais la réflexion philosophique est venue plus récemment, il y a une quinzaine d'années.
Oui. Alors, surtout dans mon dialogue avec Mathieu Ricard.
Tout à fait. Voilà. Oui. Ce qui est d'ailleurs assez intéressant comme paradoxe, hein, de voir effectivement un occidental qui devient bouddhiste et puis vous-même qui, grâce à lui, vous réintéressez au bouddhisme.
Tout à fait.
Ouais. Alors, quels sont les... On va prendre quelques points communs importants.
Oui.
On va les
Donc, moi, je vais dire les trois concepts importants du bouddhisme. C'est d'abord l'impermanence. Et en fait, ce concept imprègne toute la science du XXe siècle. Vous savez,
Alors,
Occident...
On va rappeler ce que c'est que l'impermanence.
Ah oui, l'impermanence, c'est quelque chose... Tout change, tout bouge, tout évolue. Rien n'est statique, rien ne reste en soi, donc tout change. Et ça, c'est ce que la science du XXe siècle a trouvé. Par exemple, vous savez, au début, pendant quelques 2500 ans, Aristote et tous les penseurs qui ont suivi ont pensé que l'univers était immuable, ce qu'on appelle l'immuabilité aristotélicienne. Le ciel étant le domaine de Dieu, Dieu étant parfait, on ne peut pas améliorer ce qui est déjà parfait, donc le ciel ne peut pas changer. Mais la science, bon, l'univers, on a déjà parlé de l'évolution de l'univers, hein, ça a commencé par le Big Bang il y a 13,7 milliards d'années, dans un état extrêmement petit, chaud et dense, et maintenant c'est un grand univers. Et tout le contenu change aussi. C'est-à-dire les étoiles naissent, vivent leur vie et meurent, pas sur l'échelle de 100 ans comme un être humain, mais sur des milliers, voire des millions, voire des milliards d'années. Du point de vue microscopique, c'est vrai aussi. Vous savez, on pense par exemple que cette table, il n'y a rien, mais en fait, si vous avez des yeux qui regardent à l'échelle atomique, vous verrez des électrons bouger, des atomes bouger, etc. Nous asseyons dans une salle, on pense qu'on est immobile, mais au moment même où je parle, la Terre nous entraîne 30 km autour, par seconde autour du Soleil. Le Soleil nous entraîne 220 km par seconde autour du centre galactique. Notre Voie lactée tombe à 90 km vers Andromède. Et la Voie lactée tombe à quelques centaines de kilomètres vers un amas de galaxies. Vous voyez, tout change, tout bouge. Bien sûr, dans la vie aussi, c'est Darwin aussi qui amène l'évolution dans la science. Parce que certaines personnes pensaient que nous étions descendants d'Adam et Ève, etc. Tout fait comme ça. Maintenant, Darwin nous dit que, bien sûr, notre ancêtre à tous est une cellule primitive. Et donc, en passant par, vous savez, les poissons, les reptiles, les chimpanzés, etc. Donc, tout change, tout bouge. Là, ça, c'est l'impermanence. Alors, il y a
le concept d'impermanence qu'on retrouve aussi chez Héraclite, hein, tout est en devenir, tout est en mouvement.
C'est vrai.
Voilà, chez les Grecs, et qui est très présent donc dans l'enseignement du Bouddha, chez certains Grecs, mais il y a aussi le concept de l'être. Hein, donc, c'est une vieille histoire qu'on retrouve.
C'est une vieille histoire, c'est vrai. Mais Aristote, quand même, a dominé, vous savez bien, la nuit pendant 2500. Donc, et puis, donc, maintenant, la science redécouvre cette impermanence de manière très scientifique, bien sûr.
Tout à fait. Ouais. Et puis, alors, concept aussi d'interdépendance.
Oui, donc l'interdépendance, tout est relié. Rien n'existe par soi. Rien n'a d'existence intrinsèque. Et ça aussi, la science l'a retrouvé à la fois dans l'échelle microscopique, l'échelle des atomes, et l'échelle macroscopique de l'univers. Microscopique, il y a d'abord, par exemple, c'est la physique de l'infiniment petit, c'est la mécanique quantique. Et la mécanique quantique, il y a dit qu'il y a une constante interaction entre l'observateur et le réel observé. Vous créez une réalité différente quand vous observez quelque chose. Vous voyez, donc il y a interaction, interdépendance. Il y a d'autres expériences qui disent que si vous avez deux particules qui ont interagi ensemble, si vous le séparez, même que vous le mettez dans chez Andromède, à 2 millions d'années-lumière, si vous faites quelque chose à l'une, l'autre, c'est instantanément. Sans aucune communication d'informations par la lumière, parce que la lumière n'a pas le temps de voyager d'un point à l'autre. Donc, ce qui veut dire que l'espace n'est pas divisible. Vous voyez, tout est interdépendant. Et puis, il y a une autre expérience physique qui est très, 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 très importante, ce qu'on appelle le pendule de Foucault. Vous savez, Foucault, c'est celui qui est le physicien français qui est entré au Panthéon en 1851. Il voulait démontrer la rotation de la Terre. Donc, il attache une corde au plafond du Panthéon avec un poids au-dessus. Il le lance et donc vous avez un pendule. Hein, là, c'est un oscillateur qui vient. Et si vous regardez ce pendule, il semble tourner au fil des heures. Alors, bien sûr, Foucault dit justement que ce n'est pas le pendule qui tourne, mais en fait, c'est la Terre au-dessous qui tourne, c'est la rotation de la Terre qu'il voulait démontrer. Mais en fait, la réponse est incomplète parce que qu'est-ce qui détermine donc le plan d'oscillation du pendule de Foucault? Et en fait, ce n'est pas les choses qui sont extrêmement proches, comme le Soleil, la Lune, ou la plus proche étoile, la plus proche galaxie, mais ce sont des galaxies très distantes. Donc, il y a une influence mystérieuse qui semble relier tout l'espace à la fois dans le plan macroscopique et le plan microscopique. Donc, c'est l'interdépendance par excellence.
Tous les phénomènes. Ouais.
Voilà. Donc, moi, je dirais que ce sont les deux principaux concepts que...
Oui, et en même temps, et vous le soulignez d'ailleurs vous-même, il y a quand même quelque chose qui est contradictoire entre le bouddhisme et la façon dont vous pensez la science, c'est la possibilité même d'une science. C'est-à-dire que, vous le dites en passant, qu'il y a quand même cette idée dans le bouddhisme que toute connaissance est illusion. On ne peut pas vraiment connaître les choses, alors que vous avez la conviction profonde que la connaissance est possible.
Oui. Non, je dirais pas que le bouddhiste dit que toute connaissance est illusion. Le bouddhiste dit que toute connaissance dépend de quelque chose d'autre, de nouveau. Rien ne peut exister par soi, hein, c'est ça. L'absence d'existence intrinsèque. Et moi, je suis platonicien, vous savez. Et donc, moi, je pense que, en fait, quand un scientifique découvre des choses, en fait, il a accès au monde des idées. Le monde des idées que Platon décrit dans son histoire de la caverne. Quand un mathématicien découvre un nouveau théorème, c'est cette intuition, on appelle ça l'intuition, mais je pense que c'est une connexion avec un monde des idées. Alors, ça peut être un peu contradictoire avec le bouddhisme parce que ce monde des idées existe par lui-même, vous voyez. Mais il est quand même relié à l'homme qui pense. Et donc, c'est pas tout à fait, moi je dirais, contradictoire.
Oui,
J'essaie de concilier, vous voyez, le platonisme avec le bouddhisme.
Oui, je vois bien que vous essayez de concilier. D'ailleurs, vous avez de très belles pages sur Platon, on voit qui vous habite. Oui. Vous avez quand même l'originalité d'être un physicien platonicien et de vraiment croire que les idées préexistent. Aux choses, mais même à notre découverte.
Voilà, c'est-à-dire nous les découvrons, comme un géographe découvre un nouveau territoire. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui est issu de notre esprit, parce qu'il y a des gens des matérialistes, je dirais, des neurobiologistes qui disent que tout ce que nous pensons, ressentons, ne vient, n'est le résultat que de courants électrochimiques dans nos neurones. Moi, je m'élève contre, je suis contre cette vue matérialiste pure. Je pense qu'il y a l'esprit, donc qui rejoint le bouddhisme, l'esprit est indépendant des flots de conscience qui sont indépendants de la matière dès la première fraction du second du Big Bang.
Oui, et d'ailleurs, vous, s'il y avait un fil rouge dans votre texte, ce serait plutôt un fil de lumière, parce que vous utilisez toujours cette métaphore de la lumière qui revient, et vous parlez de Platon, et il est vrai que dans la République de Platon aussi, on voit que la lumière est quand même la métaphore centrale. Alors, on ne va pas pouvoir tout citer, mais vous citez, vous, cette allégorie de la caverne en montrant bien que vous pensez effectivement que nous sommes prisonniers d'un certain nombre de ténèbres et qu'il faut retourner son regard pas seulement vers le ciel et les étoiles, mais aussi vers le soleil lui-même, c'est-à-dire cette métaphore du vrai, du beau et du bien. Donc, vous articulez quand même les trois comme le fait Platon. Et c'est pourquoi j'avais pensé lire juste les quelques pages de conclusion que Socrate donne lui-même dans la République, qui sont en fait la conséquence de l'allégorie de la caverne qu'il vient de développer pour ses disciples. En dissimulant l'espace qui se révèle grâce à la vue, à l'habitation dans la prison, et le feu qui s'y trouve à la puissance du soleil, et en rapportant la remontée vers le haut et la contemplation des choses d'en haut à l'ascension de l'âme vers le lieu intelligible, tu ne risques pas de te tromper sur l'objet de mon espérance, puisque c'est sur ce sujet que tu désires m'entendre. Seul un Dieu sait peut-être si cette espérance coïncide avec le vrai. Voilà donc comment m'apparaissent les choses qui se manifestent à moi. Dans le connaissable, ce qui se trouve au terme, c'est la forme du bien, et on ne la voit qu'avec peine. Mais une fois qu'on l'a vue, on doit en conclure que c'est elle qui constitue en fait, pour toute chose, la cause de tout ce qui est droit et beau, elle qui dans le visible a engendré la lumière et le seigneur de la lumière, elle qui dans l'intelligible, étant elle-même souveraine, procure vérité et intellect, et que c'est elle que doit voir celui qui désire agir de manière sensée, soit dans sa vie privée, soit dans sa vie publique.
Oui, c'est très beau. Donc la lumière, de même que dans le bouddhisme, je pense aussi, c'est pas seulement un corps physique qui nous transmet l'information, mais aussi c'est la dissipation de l'ignorance, hein, c'est l'accès à l'intelligible et la beauté, l'harmonie de l'univers.
Vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel et nous poursuivons cette conversation avec Trinh Xuân Thuan qui vient de publier Le Cosmos et le Lotus chez Albin Michel. Alors, nous venons de voir avec cette discussion, Trinh Xuân Thuan, sur Platon, que vous avez une dimension assez complexe parce que vous êtes à la fois bouddhiste de tradition, vous connaissez bien la philosophie bouddhiste, vous intéressez à la philosophie occidentale. Mais avant de poursuivre cette conversation, je voulais juste avoir une petite remarque. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce morceau de musique de John Coltrane?
Parce que c'est du jazz et je pense que la nature joue du jazz. Vous savez, il y a... quelques lois physiques, une quinzaine de constantes physiques dans l'univers, comme la vitesse et la lumière, la constante de Planck, la masse électron, etc. Et quatre forces fondamentales seulement, la force de gravité, les deux forces nucléaires fortes et faibles et la force électromagnétique. Et tout cela, sur une base si simple, la nature peut construire toute cette complexité, cette richesse, cette beauté, cette harmonie qui nous entoure. Et surtout la vie, et la vie consciente en plus, l'homme qui essaie de se poser des questions sur son origine, où il va. Et donc, elle joue du jazz parce que vous voyez sur les lois physiques qui forment une trame, la nature brode pour créer la complexité. C'est comme un joueur de jazz qui donc, en fonction de son inspiration, de la réaction de l'audience, vous voyez, créer des choses nouvelles à partir d'une trame qui
très,
est fixe.
Très stable, très
voilà,
stable.
Voilà, donc pour moi, la nature joue du jazz.
C'est une belle métaphore. C'est vous qui l'avez inventée, cette métaphore, ou elle est connue?
Je pense que c'est moi qui l'ai développée, oui.
Ben, en tout cas, c'est une très belle métaphore. Alors, il y a une chose aussi, moi, qui m'a beaucoup intéressé dans votre parcours, c'est que vous faites partie de ces astrophysiciens, de ces scientifiques reconnus, qui, à partir de votre expérience de scientifique, vous pensez qu'il est très possible qu'il y ait un principe créateur, une intelligence créatrice,
oui,
ce qu'on appelle le principe anthropique,
tout à fait,
qui va s'opposer, je dirais, à ce que pense plutôt la majorité des scientifiques, qui sont plutôt dans une vision plus matérialiste, et qui disent finalement, après tout, on peut absolument pas dire, à partir de l'observation, même si le monde est complexe, qu'il y a de la beauté, etc., ça c'est de la sensibilité, tout ça c'est le fruit du hasard, et il peut y avoir une multitude d'univers dans lequel, finalement, on serait les seuls dans lequel il y aurait eu cette harmonie.
Voilà, et... par hasard, complètement par hasard.
Alors, oui. Réexpliquez-nous un petit peu ce débat-là, qui est important, dans lequel vous êtes un des principaux acteurs, finalement.
Tout à fait, tout à fait. Donc, je suis pour ce qu'on appelle le principe anthropique fort, du grec anthropos, qui veut dire homme, donc, et donc qui dit que, quelque part, donc je reprends une phrase du physicien Freeman Dyson, qui dit que, quelque part, l'univers savait que l'homme allait venir. Donc, les choses ont été réglées de façon extrêmement précise dès le début. Des premières fractions de seconde du Big Bang, les choses, c'est-à-dire les constantes physiques dont je parlais tout à l'heure, la masse électron, la force gravité, la vitesse de lumière, etc., et les conditions initiales, et sont réglées de façon extrêmement précise pour que les étoiles se forment et que donc fabriquent leur alchimie nucléaire et donc qui permettent donc la vie et la conscience de surgir. Et cette précision, c'est extraordinaire. Vous savez, par exemple, pour le réglage de la densité initiale de l'univers, je prends toujours la métaphore elle doit être comparable à celle d'un archer si vous voulez planter une flèche dans une cible d'un centimètre carré, donc vous voyez tout petite, mais qui serait placé aux confins de l'univers à 13,7 milliards d'années-lumière. Donc vraiment d'une précision extraordinaire. Alors que penser de ce réglage initial? Alors on peut dire que soit c'est complètement par hasard, ou il y a une nécessité quelque part. Donc pour reprendre les mots de Jacques Monod, qui a écrit le hasard et la nécessité. Bien sûr, il y a des gens beaucoup de mes collègues pensent que c'est le hasard. Vous l'avez dit tout à l'heure, par exemple, Monod lui-même, dans son livre, dit que l'homme a émergé par hasard dans un univers qui lui est complètement indifférent. Steven Weinberg, un autre physicien, prix Nobel de physique, qui dit que plus on comprend l'univers, plus l'univers n'a pas de sens. Vous voyez, moi, je m'élève contre ce genre de choses, parce que la science, je dis très bien que la science ne peut pas distinguer entre deux hypothèses. Alors, si vous préférez le hasard, bien sûr, vous pouvez postuler une infinité d'autres univers parallèles, la combinaison
pour une raison statistique.
C'est ça, raison statistique.
Que la probabilité que puisse exister la conscience, la complexité, la croissance de la complexité puisse apparaître, qu'il faut un réglage aussi extraordinaire, voilà. Ça ne peut arriver qu'une fois sur 200 milliards.
C'est ça, sur et... 10 puissance 43, par voilà. exemple.
C'est
oui, 10 puissance 43. Et donc, il faut 10 puissance 43 univers parallèles pour avoir un qui aurait par marché. Hasard la combinaison voilà, gagnante. Et nous sommes le volant en quelque sorte.
Et donc ça, mais vous, moi, vous adhérez pas à ça.
Oui, je m'élève contre... Parce que bon, pour moi, la science doit être reposée sur l'observation. En tant qu'observateur de l'univers, vous avez postulé une infinité d'univers par là qui ne pourront jamais être vérifiés par l'observation, parce que notre télescope ne peut voir qu'un autre univers, pas d'autres univers parallèles. Pour moi, ça relève de la métaphysique. La science devient de la métaphysique. Donc, moi, je préfère quelque chose que je peux
observer. Donc vous dites
observer.
À l'intérieur de ce qu'on peut observer.
Observer, voilà. Et
le
donc,
plus
c'est,
probable,
c'est un
c'est
pari,
qu'il y ait,
hein. C'est voilà. un pari, c'est pas la science. C'est un pari à la Pascal. J'appelle toujours un pari pascalien. Et donc, un pari où il y a un seul univers. Et, mais donc, c'est pour. Pour expliquer ce réglage extrêmement petit, il faut, moi, ce que j'appelle un principe créateur. Alors, ce principe créateur, c'est pas un dieu barbu personnifié. Hein. En fait, c'est la manifestation même des lois dans la nature.
C'est une intelligence créatrice, quand même. Il y a l'idée d'une intelligence qui préexiste oui. Au monde ou pas?
Il y a, oui, quelque chose qui fait que la nature est ordonnée et harmonieuse.
Donc une intention.
Un principe, oui, oui, vous pouvez le dire comme ça. Mais bon, étant bouddhiste, je pour moi, c'est pas un concept d'un dieu barbu personnifié
oui,
qui s'occupe des affaires personnelles, comme je le
tout
dis.
Tout à fait, mais donc, il faut distinguer oui. philosophiquement oui. Le dieu des religions, c'est-à-dire le dieu révélé, entre guillemets, oui. Avec une personnalité, un caractère. Bon, oui. Ça, bien sûr, il y a de l'anthropomorphisme qui a été
voilà.
plaqué.
Oui.
De ce qui pourrait être un dieu philosophique, qu'on retrouve chez les Grecs. Hein.
Oui.
On retrouve chez Aristote le premier moteur immobile, la cause finale. On retrouve chez Platon l'idée du démiurge créateur. Il y a quand même, chez les philosophes, une tradition déiste oui. que vont reprendre les philosophes des Lumières, hein, comme Voltaire.
Oui, oui.
Voltaire vous parle de cet univers tel une horloge, et il dit « je ne peux pas imaginer une horloge aussi parfaite sans un horloger
oui, ».
Vous êtes un peu dans cette tradition.
Un peu, mais moi je préfère ne pas justement définir ce principe. Je préfère parler d'un principe créateur, et donc qui se manifeste par les lois de la physique et l'organisation de la nature que j'observe. Donc, c'est pour moi ça, ce principe créateur. Donc, c'est un principe panthéiste à la Spinoza et Einstein.
Ah ben alors, Einstein, Lélie Anvar, je sais que vous nous aviez préparé une petite lecture d'Einstein sur ce sujet.
Oui, absolument. Parce qu'Einstein était de tradition juive, mais néanmoins, il n'était pas dans, il ne croyait pas dans un dieu barbu non plus. Et effectivement, il avait cette vision un peu panthéiste d'un principe créateur, d'une force intelligente à laquelle il ne pouvait pas ne pas penser quand il observait les lois de la nature. Et en fait, c'est un extrait d'une profession de foi d'Albert Einstein qui a été enregistrée en 1932 lors d'une réunion avec la Ligue des droits de l'homme. Et c'est un peu comme son credo, disons. Et je sais à quel point il a compté pour vous. C'est un don du ciel que d'appartenir à la catégorie de ceux qui peuvent consacrer le meilleur de leur énergie à l'observation et à l'exploration de la réalité objective. Et je suis vraiment heureux d'avoir eu cette chance qui permet à l'homme de moins dépendre des caprices du destin ou de son prochain. Mais cette indépendance ne doit pas nous faire oublier nos devoirs à l'égard de l'ensemble de l'humanité, passée, présente ou future. Bien que dans ma vie de tous les jours je sois un solitaire, la conscience d'appartenir à la communauté silencieuse de ceux qui luttent pour la vérité, la beauté et la justice m'empêchent d'éprouver un sentiment de solitude. L'expérience la plus belle et la plus profonde que puisse faire l'homme est celle du mystère. C'est sur lui que se fondent les religions et toute activité sérieuse de l'art ou de la science. Celui qui n'en fait pas l'expérience me semble être sinon un mort, du moins un aveugle. Sentir que derrière tout ce que nous pourrons découvrir, il y a quelque chose qui échappe à notre compréhension et dont la beauté, la sublimité ne peuvent nous faire parvenir qu'indirectement, voilà ce que c'est que le sentiment du sacré. Et en ce sens, je peux dire que je suis religieux. Et il me suffit de pouvoir m'émerveiller devant ces secrets et de tenter humblement de saisir par l'esprit une image pâlie de la sublime structure de tout ce qui est. Thank you.
Cette émission des Racines du Ciel avec Trixang Tuan se termine. Nous allons, comme c'en est l'habitude, terminer par un petit agenda culturel. Lélie Anvar.
Oui, je voulais signaler une réédition revue et augmentée d'un ouvrage absolument passionnant, un ouvrage collectif, Le Savoir grec. C'est publié chez Flammarion, sous la direction de Jacques Brunschvig, Geoffrey Lloyd, Pierre Pellegrin. Il y a des contributions d'éminents spécialistes du monde grec. Et alors, il y a justement des articles, par exemple, sur les mathématiques hellénistiques, sur l'histoire, sur la poétique, sur la philosophie, bien sûr, etc. Et c'est vraiment une somme, et c'est passionnant à lire, pour comprendre d'où nous venons, puisque finalement ce savoir grec est le socle de notre culture occidentale. Et le deuxième ouvrage que je voudrais signaler, c'est un petit ouvrage d'Anthony Feneuil au PUF Philosophie. Ça s'appelle Bergson, Mystique et Philosophie. Et j'ai pensé en parler aujourd'hui parce que précisément dans ce petit ouvrage, il essaye de montrer comment Bergson articule sa pensée mystique avec le rationalisme de la philosophie et comment il essaye de concilier les deux. Et en fait, votre livre, ce que vous dites de l'articulation entre mystique, philosophie et science, m'a fait penser à ce petit ouvrage que j'ai lu avec grand intérêt. Donc c'est Anthony Feneuil, Bergson, Mystique et philosophie au PUF.
Et oui, Bergson aussi, un grand scientifique, oui, au carrefour de la philosophie, de la poésie. Trixang Tuan, vous vouliez nous parler d'un film et d'un livre. Alors le film, on s'y attend.
Oui, c'est 2001, l'Odyssée de l'espace du grand cinéaste Stanley Kubrick, bien sûr. C'est un film qui m'a émerveillé. Hein. Quand je pense à l'espace, je pense toujours à ces magnifiques images sur l'écran de Kubrick, accompagnées d'une musique sublime, le beau Danube bleu, etc. C'est vraiment bien. Bon, c'est le cinéaste, moi je dirais, qui a le premier essayé justement de mêler non seulement de donner un sentiment de l'immensité de l'espace, mais aussi un sentiment donc d'évolution. Vous savez, il y a je pense que la première séquence, c'est un singe qui lance un os et puis qui devient un vaisseau spatial. Et c'est vrai. Puis le mystique, donc il se dirige vers une destination connue, il y a une grande pierre, etc. Donc c'est un film que je recommande à tous nos auditeurs, ça c'est certain.
Alors s'il existe en DVD évidemment. Oui. Et puis très rapidement, donc un livre que vous avez beaucoup aimé, c'est Une chose étrange à la fin que le monde, de Jean d'Ormesson, que nous avions reçu d'ailleurs sur ce plateau pour en parler. Et ce livre vient de sortir en poche chez Pocket.
Oui, c'est superbe, c'est un roman métaphysique, hein. Comme tous les romans de Jean d'Ormesson, il se demande justement toutes les questions que nous avons débattues, le sens du monde, le sens de l'univers, est-ce qu'il y a un dieu, une puissance suprême, et il le fait de manière érudite, cultivée, avec beaucoup d'humour, et il y a le vieux qu'il appelle, donc Dieu c'est le vieux, et puis lui-même il se met en scène, c'est superbe, je vous recommande.
Et je recommande aussi, et donc à tous nos auditeurs, Trixang Tuan, Le Cosmos et le Lotus, chez Albin Michel. Merci beaucoup Trixang Tuan, c'était un grand plaisir de vous recevoir.
Merci de m'avoir reçu.
Vous pouvez télécharger cette émission pendant une semaine et la réécouter pendant un mois sur notre site internet franceculture.fr. Nous avons parlé de la naissance de l'univers avec Trixang Tuan et nous parlerons de son éventuelle disparition avec Jean-Yves Leloup qui nous parlera la semaine prochaine de l'apocalypse. Tout de suite, vous retrouvez le journal de 8h. Bon dimanche, très belle journée à tous.